franceinter.fr.
France Inter, il est 8h30. Le journal, Frédéric Pommier, bonjour.
La revue de presse, Patricia Martin.
Le journal, j'ai dit le journal.
Mais oui.
Mais ça va pas du tout, la revue de presse. J'ai bu du champagne, vous voulez que je vous dise, c'est pour ça.
Mais ça se voit. Bonjour Patricia.
Je vous remercie, c'est agréable.
Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. Et si la solution pour être en forme, la solution pour aller mieux, être mieux dans son corps, être mieux dans sa tête, et si la solution donc c'était la nature? Ça paraît ballot dit comme ça, tout le monde sait que ça fait du bien de se promener au milieu des sapins et des chênes, ou sur la plage, ou dans les prés, ou sur les crêtes des montagnes, ou dans les vallées enneigées. Tout le monde sait que ça détend, que ça apaise, que ça décrispe. Mais à la lecture de l'enquête publiée par le National Geographic, il apparaît que la nature a sur l'homme des pouvoirs proprement sidérants. Non seulement elle réduit le stress provoqué par la vie moderne, mais en outre, elle fait progresser les performances intellectuelles. Conclusion de plusieurs études scientifiques recensées par le mensuel. Des études, donc, qui révèlent que l'on réfléchit mieux, on se concentre mieux, on pense mieux, après s'être immergé quelques jours ou même quelques heures dans un milieu naturel. Du reste, on est plus créatif, parce que le cerveau s'est reposé.
On peut écouter juste un petit peu les petits oiseaux, là.
Ces études montrent également que la nature a des incidences sur le bien-être général. Risque fortement diminué de maladies cardiaques, d'asthme, de diabète et même de migraines chez les individus vivant à moins d'un kilomètre d'un grand espace vert. Et ce, y compris s'ils ne s'y rendent pas. Quant aux enfants dont les fenêtres donnent directement sur de l'herbe ou des arbres, ils seraient globalement moins agressifs que les autres et meilleurs à l'école. Et puis ils guériraient plus vite quand ils sont à l'hôpital. Ces bienfaits du grand air, certains pays les mettent d'ailleurs en avant à travers des politiques de santé publique. Ainsi la Finlande, qui affiche des taux très élevés d'alcoolisme et de suicide et qui recommande à chacun 5 heures de nature par mois. Et en Corée du Sud, où 70% des habitants se disent déprimés par leur travail, il existe dorénavant des forêts thérapeutiques. Érables et ruisseaux, clairières au milieu des rochers, le gouvernement de Séoul a prévu d'en faire émerger une trentaine d'ici l'an prochain, des forêts pour déconnecter. Quitter la ville et son portable, faire corps avec les éléments, grâce aux plantes et aux paysages, redonner du sens à sa vie. Mais comment redonner du sens à sa vie quand on a perdu la personne qu'on aimait et qui nous aimait depuis près de 50 ans? C'est bien cette question qui sous-tend l'interview que Maryse Wolinski a accordée à l'hebdomadaire Femme Actuelle.
Oui, Maryse Wolinski, veuve donc de Georges Wolinski, l'un des dessinateurs assassinés, le 7 janvier dernier à Charlie Hebdo.
Et dans quelques jours, cela fera donc déjà un an. Un an que Maryse Wolinski essaye de s'habituer à l'absence d'un homme qui ne cessait de lui écrire des mots d'amour sur des post-it. Comment donc supporter l'absence, le vide et le chaos? C'est ce qu'elle raconte. Toujours inconsolable, tout d'abord nier l'évidence, en imaginant que son époux est juste parti en voyage, refaire son lit tous les jours, ranger ses livres, son bureau, remettre en place ses cravates. Et puis pour rendre encore plus palpable sa présence, écouter des enregistrements afin de réentendre sa voix. Et puis relire les post-it, ces mots d'amour qu'elle a recollés un peu partout sur les murs de son nouvel appartement. Ensuite, il y a la colère. Colère immense contre les services de l'État qui, d'après elle, n'ont pas su protéger comme il aurait dû les locaux de Charlie Hebdo. Colère qu'elle exprime dans un livre à paraître la semaine prochaine et où elle s'en prend notamment au syndicat de police Alliance qui, explique-t-elle, a fait pression sur les autorités pour alléger la sécurité des dessinateurs, prétendant que c'était du luxe de surveiller ce journal. Et aujourd'hui, lui demande l'hebdomadaire, aujourd'hui comment allez-vous? Question simple, mais à laquelle Maryse Wolinski dit ne toujours pas savoir répondre. Du coup, elle cite Victor Hugo, qui à propos de la mort de sa fille écrit dans Les Contemplations, vivre ou mourir, je serai celui qui va, autrement dit, celui qui vit. Et Maryse Wolinski a choisi de vivre, meurtrie, oui, mais toujours debout.
Et son livre s'intitule « Chérie, je vais à Charlie ». Il est publié aux éditions du Seuil et sortira jeudi prochain.
Un an donc après la tuerie à Charlie Hebdo et la sanglante prise d'otage porte de Vincennes à Paris pour l'occasion, le JDD fait le point sur l'enquête sous la plume de Stéphane Joanny. Depuis un an, la justice a accumulé plus de 50 tomes d'instruction. 7 personnes ont été mises en examen, dont 6 sont toujours écrouées. Mais pour l'instant, les enquêteurs sont impuissants à mettre la main sur les 3 principaux complices connus et à identifier le probable donneur d'ordre du tueur de l'hypercachère. Du reste, la double revendication de ces attentats reste un mystère. Au nom d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique pour les frères Kouachi et au nom du groupe État islamique pour Hamedi Coulibaly. De son côté, le New York Times s'intéresse à l'enquête sur les attentats de novembre et le quotidien américain met en avant les failles de la police et des services de renseignement. Si les terroristes ont pu si facilement passer à l'action, c'est notamment, selon le journal, à cause des lourdeurs de la bureaucratie française. Lire aussi dans Le Monde le récit terrible que dresse Aline Leclerc, le deuil impossible des parents et des proches de Justine Moulin, 23 ans, tuée le 13 novembre à la terrasse du Petit Cambodge à la suite d'une erreur d'identification. On les a invités à se recueillir devant le corps d'une victime méconnaissable, un visage entièrement bandé, mais une victime qui n'était en réalité pas Justine. Et cela, ils ne l'ont su que quelques jours plus tard. Sa mère raconte qu'elle s'est sentie très maltraitée par les cellules d'aide aux familles. Elle dit aussi que lorsqu'elle a su que le corps devant lequel ses proches étaient recueillis n'était pas celui de sa fille, c'est comme si Justine venait de mourir une deuxième fois. Et puis, bien plus anecdotique, mais tout de même, dans l'actu quotidien pour ados, cette question qui tourmente aujourd'hui la Française des Jeux. Que faire à l'occasion du prochain vendredi 13? En 2016, il n'y en aura qu'un, ce sera au mois de mai. Or, traditionnellement, la FDJ propose au loto un jackpot de 13 millions d'euros, mais suite aux attentats du vendredi 13 novembre, lesquels ont donc coïncidé avec le tout dernier jackpot, est-il décent ou pas de perpétuer la tradition? Plusieurs pistes sont à l'étude, maintenir le tirage mais sans en faire la pub, ou alors l'annuler, ou bien le transformer en hommage. Sachant que la solution pour être mieux dans son corps et sa tête, c'est rarement une question d'argent. Mais si la solution s'appelait Alain Juppé?
Et c'est en tout cas ce que suggèrent régulièrement les sondages, et c'est aussi ce que rêve d'incarner le maire de Bordeaux, qui accorde une longue interview au journal du dimanche.
Et ainsi que le titre l'hebdomadaire, Juppé choisit la fermeté. Candidat à la primaire de la droite qui se déroulera en novembre, il publie mercredi un livre pour un État fort. Et ce sont ses propositions qu'il dévoile dans le JDD. Juppé résolument à droite, plaidoyer pour un durcissement des conditions du regroupement familial, rétablissement des peines planchers, construction de 10 000 nouvelles places de prison et mise en cause des abus scandaleux auxquels donnerait lieu, dit-il, l'aide médicale de l'État. Et l'ex-premier ministre, pour une fois, se laisse aller au lieu de rester calé droit dans ses bottes, nous dit le journal du dimanche. Ma France, écrit-il, c'est d'abord ma terre, la terre de mes pères, ma patrie. Et d'invoquer aussi, lui le laïc revendiqué, les racines chrétiennes de notre pays. Juppé propose par ailleurs la création d'un délit d'entrave à la laïcité, aux urgences d'un hôpital, dit-il. On n'est pas fondé, par exemple, à s'opposer à ce que ce soit un médecin homme qui vous soigne. Quant à la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme, déchéance proposée par le chef de l'État, Alain Juppé estime que ce n'est pas une réforme utile, mais qu'il la voterait s'il était député. À la rubrique politique, on notera également la manchette du Courrier Picard ce matin qui nous explique qu'avec la fusion des régions Nord, Pas-de-Calais et Picardie, les conseillers de l'Assemblée élus le mois dernier seront plus grassement rémunérés. Une région plus grande, des indemnités plus grosses, résume le quotidien.
Heureusement que j'ai bu un doigt de champagne pour dire ce que j'ai à dire. Et si la solution, mon cher Frédéric, la solution pour être en forme, la solution pour aller mieux, c'était de faire davantage l'amour?
Mais qu'est-ce qui vous prend, Patricia?
Ben, je sais pas, je lis ce que vous m'avez écrit.
C'est en tout cas ce que semble penser ce boulanger du Mans. En photo à la une du Maine Libre, il a décidé de placer des fèves classées X dans les galettes des rois qu'il vendra ce dimanche. Des fèves pour adultes, représentant les différentes postures du Kamasutra, l'abeille, l'amazone, la grenouille, le roseau. Pas forcément à reproduire juste après la galette, la frangipane c'est un peu lourd et donc pour les acrobaties, mieux vaut sans doute laisser passer le temps de la digestion. Et si la solution, c'était le sport? Le sport pour aller mieux, et cette année nous serons servis avec l'Euro 2016, 10 juin, 10 juillet. Pendant un mois, la France vivra au rythme du football, se réjouit le Parisien, qui profite de ce 3 janvier pour lister tous les événements qui marqueront les prochains mois. Le procès Cahuzac, accusé de fraude fiscale, ou encore le comeback de Michel Polnareff avec un tout nouvel album et une tournée qui débutera le 20 avril à Épernay. Et si la solution, c'était tout bonnement la chanson? Toute la presse rend hommage évidemment à Michel Delpech qui est mort hier soir à 69 ans. Merci et adieu, titre ainsi Nice Matin. Tandis que le blogueur Didier Paubel écrit ceci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, dites, qu'un chanteur populaire? C'est quelqu'un qui chante, même quand il ne chante pas. Entendez par là qu'on n'a même pas besoin de sa voix et des paroles pour qu'elles nous arrivent soudain.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.